À toi, Yann, et merci.
Merci, merci Jean. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être parmi vous. Je ne sais pas d'ailleurs ce qui nous a amené à nous rencontrer avec Jean. On évoquait dans la voiture tout à l'heure certains dossiers sur lesquels l'association Sherpa travaille. D'ailleurs, si vous permettez, pendant ma présentation, j'ai quelques plaquettes de présentation de Sherpa, comme ça vous donnera une idée plus précise de ce qu'on fait. Je vais essayer de ne pas être trop pénible, parce que c'est du droit finalement qui constitue notre quotidien d'activité, mais de mettre en perspective ce sujet qui, ma foi, n'est pas mince. Il s'agit de parler d'éthique et mondialisation ce soir, donc je vais essayer d'être le plus concret possible et le moins ronflant. Donc je vais vous faire circuler ça. Déjà, ça pourra alimenter même, je pense, des questions à un moment donné. On aurait pu se trouver plutôt à Rennes, hein, d'ailleurs, Jean, parce que moi, je suis rennais. Mon nom, c'est Yann Keinec, donc comme ce nom l'indique, je suis breton. L'association est basée à Paris, et moi, je suis 2 jours par semaine à Paris seulement. Donc là, j'ai bifurqué vers la Nièvre, au lieu de rentrer à Rennes ce soir. Je suis ici parmi vous et je m'en réjouis. Donc le thème éthique et mondialisation, pour rentrer dans le vif du sujet, ma foi, pour l'introduire, je crois qu'aujourd'hui... L'association des deux mots éthique et mondialisation, elle est devenue quasiment évidente parce que finalement l'éthique, son absence est assez omniprésente dans la mondialisation aujourd'hui. Les exemples nous poursuivent toute la journée là en ce moment, entre les subprimes, les paradis fiscaux, les golden parachutes, l'arbitrage qui donne raison à Bernard Tapie avec un montant astronomique de dommages et intérêts, etc. Tout ça, ça relève quelque part directement ou indirectement de la notion d'éthique, et plus philosophique que juridique, évidemment. Mais il se trouve que l'éthique aujourd'hui a envahi le monde économique, que les entreprises sont devenues les grandes sociétés sont aujourd'hui s'investissent elles-mêmes d'une grande mission d'intérêt général, en tout cas c'est ce qu'elles veulent nous faire croire, et le droit se situe où finalement dans tout ce questionnement? Quelque part l'éthique s'associe à la notion de morale, c'est évidemment éminemment philosophique, et il se trouve que dans le monde dans lequel on est, et puis de façon générale, la nature humaine fait que tout à chacun, à un moment donné dans son existence, l'éthique ou la morale peut prendre le dessus, mais bien souvent ne le prend pas. Et le droit, il arrive dans ces circonstances-là, en général, pour rééquilibrer des situations où il y a un déséquilibre patent, où il y a des rapports de force qui sont tellement inégalitaires, que le droit, justement, il arrive là, en considérant la nature humaine qui est pas vertueuse de façon suffisante. L'outil juridique arrive là, c'est le droit social par exemple, qui au premier chef est là en tout cas censé rééquilibrer des rapports de force qui sont par définition déséquilibrés. Donc l'association entre éthique et droit vient de là. Il y a ce rôle du droit qui arrive à un moment donné pour rééquilibrer des rapports de force. Maintenant, l'idée de la mondialisation nous associe plus au monde de l'entreprise, des multinationales, des nouvelles technologies. Donc il y a un rapport ensuite qui se fait assez directement entre les grands sujets de droit que sont les entreprises multinationales et l'éthique. Puisque les entreprises multinationales, dans notre quotidien, aujourd'hui, ont un impact qui va de nos soins médicaux jusqu'à notre assiette, en passant par nos voyages, en passant par nos transports, avec nos automobiles, etc. Et donc, finalement, le rôle des entreprises, aujourd'hui, bien souvent, supplée ou tente de suppléer celui de l'État, à savoir que les entreprises, on leur avait absolument rien demandé au départ, sur des sujets d'intérêt général, mais se sont invitées dans le sujet de la sauvegarde de l'intérêt général. Je crois qu'on est tous conscients des campagnes médiatiques dont on est arrosé en permanence, que ce soit à la télévision, dans la presse, où on apprend finalement que toutes les grandes sociétés pétrolières, les banques, les compagnies d'assurance sont là finalement pour assurer le bien-être des générations futures. Là, la sémantique est utilisée par les entreprises relève de l'éthique. On parle de code éthique, de code de conduite. On a une pléthore maintenant d'entreprises qui ont des départements qui sont souvent associés au département communication, mais qui sont là pour montrer, emballer joliment l'action d'une entreprise en disant « Regardez à quel point on prend soin de vous et à quel point on est lisse et qu'on fait vraiment tout le nécessaire et qu'on investit ». On peut juste s'interroger sur cette tendance-là qui est assez récente, en tout cas pas si ancienne, ça fait peut-être une trentaine d'années maintenant que le sujet est devenu vraiment un sujet de business. Comment on alimente en communication notre rôle, nous, du multinational, dont le but premier est quand même de faire du profit, ce qui est légitime, certes. Mais l'association maintenant de l'intérêt général et du profit est devenue telle qu'on a une espèce de flou général et qui, associé avec ce qu'on peut constater aussi, qu'on ressent, nous tout particulièrement, parce qu'on est quotidiennement confronté à des situations qui arrivent à nous, avec un certain nombre de personnes, bien souvent dans les pays du Sud. Sur l'objet de Sherpa, j'y reviendrai tout à l'heure, il est associé vraiment au phénomène de mondialisation, c'est-à-dire qu'on on est abordé par un certain nombre de personnes qui se disent, et qui nous le démontrent bien souvent, victimes d'un certain nombre de violations de droits fondamentaux, de leur environnement, qui sont perpétrées dans des contrées lointaines où les entreprises, en utilisant le droit tel qu'il est imparfait aujourd'hui, délocalisent les crasses sociales ou environnementales, et ce, en toute impunité. Donc, les exemples... Et c'est là que l'aspect politique est tout à fait présent. C'est que si le droit, il est là pour rééquilibrer un certain nombre de rapports de force, il est là aussi, et je ne sais pas si c'est votre cas, on en discutera tout à l'heure, j'espère, à quoi vous associez le mot droit aujourd'hui ? Moi, à titre personnel, avant de rejoindre Sherpa, j'ai exercé la profession de conseil juridique et fiscal pendant 7 ans dans une grosse maison du droit des affaires qui s'appelle Landwehl & Partners. C'est un gros cabinet de droit des affaires. Qui dépend d'une autre société qui s'appelle PricewaterhouseCoopers, qui est un cabinet qui accompagne toutes les multinationales dans le monde entier. Moi, pour exemple, j'ai passé 2 ans et demi au Tchad. J'étais tout seul, le seul et unique représentant de cette auguste firme. Et j'étais là pour accueillir les investisseurs dans le cadre d'un projet pétrolier qui est une catastrophe environnementale. Donc, je vous en parlerai peut-être dans le détail un peu tout à l'heure, mais c'est ce qui m'a amené à travailler maintenant pour Sherpa. C'est-à-dire que j'ai expérimenté, moi, de l'intérieur... Et j'étais grassement payé pour ça, pour utiliser le droit de façon vicieuse. Et jusqu'à maintenant, le droit des affaires, on l'associe plutôt à ça, c'est-à-dire enrichir ceux qui le sont déjà. L'habileté juridique se paye très cher, et on paye des gens comme moi, et on a payé en tout cas des gens comme moi à cette époque-là, pour exploiter les vides juridiques. C'est le jeu. C'est un petit peu la martingale qui est recherchée au niveau du droit fiscal, au niveau de... Et les entreprises, dans le monde actuel et la mondialisation, et je vous exposerai un peu comment fonctionne une multinationale et la façon dont elle jongle avec les différents droits nationaux, fait son marché dans les différents droits nationaux. Et on peut le constater, un exemple, les zones franches en matière fiscale, par exemple, une région ou une commune qui veut attirer des investisseurs, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle baisse son pantalon pour accueillir le maximum d'entreprises, c'est-à-dire que vous allez être exempté d'impôts pendant 5 ans si vous vous installez chez nous. En contrepartie, vous allez créer des emplois, vous allez vous installer, investir, générer des emplois directs, indirects, etc. Et toutes ces brèches-là, qui existent à l'échelle nationale, française par exemple, à l'échelle mondialisée, les possibilités qui sont offertes sont infiniment plus grandes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir chercher les failles d'un système juridique de tel pays, y installer telle activité qui fait l'objet d'un régime fiscal de faveur dans un pays donné, délocaliser une autre partie de mon activité dans tel autre pays qui a un régime de faveur plus particulier sur la propriété intellectuelle, par exemple, et jongler comme ça, incidemment, et considérant qu'une entreprise multinationale, admettons qu'il y a son siège social en France, constitue comme une toile d'araignée. Elle est positionnée ensuite dans des... Il y a certaines entreprises qui ont des représentations dans 140 pays. C'est ce qui explique d'ailleurs que ma présence au Tchad à cette époque-là. Il s'agissait d'accueillir nos clients qui étaient présents par ailleurs dans tous les autres pays, et on ne pouvait pas envisager que PricewaterhouseCoopers ne soit pas présent pour accompagner ces clients-là à N'Djamena. Et donc j'étais là, moi, pour les accueillir, pour leur expliquer en quoi le droit local consistait, en matière sociale, en matière environnementale, en matière de droit de douane, etc. Pour, encore une fois, toujours cueillir les petites astuces qui permettent toujours d'être exempté, de passer entre les mailles du filet, de profiter bien souvent d'un dispositif légal défaillant. En matière de droit de l'environnement, il y a un certain nombre de pays qui préfèrent avoir une législation défaillante pour accueillir des investissements, plutôt que de les faire fuir en ayant des règles qui sont, disons, une fourchette haute de standards qui serait pourtant la façon de procéder. L'État est garant d'un certain nombre de considérations de long terme, et la concurrence qui existe entre les pays amène à un nivellement par le bas. Et ça, on peut le constater dans un certain nombre de pays. En Europe, c'est moins spectaculaire, mais les entreprises européennes qui investissent à l'étranger, notamment en Afrique, un espace juridique que je connais assez bien, en tout cas pour l'Afrique centrale, s'ils viennent s'installer là, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir profiter un maximum de tous ces vices juridiques. Donc il y a une espèce d'impunité, et il faudrait que je vais vous expliquer un petit peu en quoi elle consiste. Un groupe de sociétés, comme on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire la notion de multinationale, telle qu'on l'entend aujourd'hui, ne veut à proprement parler juridiquement pas dire grand-chose. Un groupe de sociétés, une marque mondiale, on prend Nike, on prend Coca-Cola, elle est constituée d'une société mère. Et puis après, il y a des sociétés filles, et puis des petites filles, et qui se dispersent dans tous les pays du monde. Aujourd'hui, la notion de groupe qui rassemble toutes ces entités-là n'existe pas en droit ou à la marge, en matière de droit de la concurrence, par exemple, pour éviter des situations monopolistiques. Mais c'est le règne de l'impunité, il est généré par une règle très basique en droit des affaires, c'est qu'une personne morale, donc qui est l'équivalent virtuel d'une personne physique, une personne morale a des droits, est autonome, a des droits, des obligations, doit payer des impôts, c'est le nom de cette entité juridique qui figure sur les bulletins de salaire, etc. Et même si une entité basée en France, admettons, a 80 filiales à l'étranger, chacune de ces filiales est considérée, et c'est là que l'impunité est organisée, comme des entités indépendantes, autonomes, avec un pouvoir de décision soi-disant complètement autonome, qui ne répond pas du tout à une politique d'ordre général qui serait décidée en haut, au niveau de la société mère. Et ce principe d'indépendance juridique, c'est celui-là même qui permet aujourd'hui à une société mère, qui pourtant, au final, est la société qui récupère l'ensemble des profits de ses filles. La société mère peut se retrancher derrière cette notion d'autonomie juridique pour dire, écoutez, ma filiale installée au Congo, au Gabon ou en Équateur, il y a manifestement eu des grosses gourances d'un point de vue environnemental qui ont généré des pollutions affreuses, qui font travailler des enfants, effectivement. Mais moi, en tant que société mère, je ne maîtrise pas ces situations-là. Ce sont mes représentants sur place de cette entité qui elle-même a sa propre personnalité juridique. Je ne suis pas responsable de ce qui se passe à l'étranger. C'est évidemment là l'un des phénomènes majeurs qui fait qu'aujourd'hui, on a encore trop peu de sociétés, là j'entends à l'échelle du groupe, qui répondent des violations perpétrées par leurs filiales. Ils se retranchent derrière cette notion basique d'autonomie juridique. C'est une espèce de sacro-sainte règle. Elle figure dans le code de commerce en France, comme elle figure dans tous les codes de commerce du monde entier. Et c'est derrière cette règle-là qu'on entretient une espèce de cercle vicieux qui est tout à fait virtuel, qui ne se vérifie pas dans les faits. Et je reviendrai tout à l'heure sur des détails sur comment nous, au sein de Sherpa, on essaye de monter des dossiers après des investigations sur place qui correspondent à des violations perpétrées à l'étranger, qu'on arrive à remonter le chemin décisionnel pour arriver à la défense, au siège social de l'entreprise concernée, pour dire, écoutez, les décisions qui ont entraîné les violations perpétrées dans un pays X ou Y, la décision d'origine, c'est chez vous, société mère, que ça s'est passé. Vous devez en répondre. Mais la charge de la preuve repose sur les victimes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un principe a priori qui impose à la société mère de prévenir les risques, qui sont très variés, évidemment, c'est complexe. Et n'empêche que la solution qui consiste à se retrancher derrière cette règle sacro-sainte est évidemment d'une grande facilité. Aujourd'hui, elle règne. Encore aujourd'hui, elle règne. Et pourtant, constatons-le, le marketing global aujourd'hui, la politique de promotion de marque, par exemple, elle est globale. C'est-à-dire que quand une société va promouvoir un produit ou une marque, je parlais de Nike ou de Coca-Cola tout à l'heure, mais il y en a pléthore des marques mondiales. Les gens, tout un chacun, on ne fait pas la distinction si cette marque, c'est la société mère qui la promeut ou si c'est seulement sa filiale locale. Les campagnes marketing sont décidées au siège au niveau de la société mère. Donc derrière, tout ce qui est véhiculé, via notamment les engagements éthiques, le fait que donc on va tout mettre en œuvre pour utiliser les meilleurs procédés techniques, utiliser des bateaux extrêmement sécurisés pour transporter le pétrole, éviter que les enfants travaillent pour fabriquer nos tennis ou autres produits textiles, etc., engage la société mère qui est à l'origine de ces campagnes marketing. Et quelque part, finalement, elles se sont prises à leur propre piège. Parce que ces engagements éthiques, à l'échelle globale, nous permettent, nous, aujourd'hui, de justifier la mise en cause de la responsabilité de la société mère. Vous véhiculez des discours que les citoyens du monde entier entendent, qui est le même. Donc arrêtez après de nous dire que vous vous retranchez derrière l'autonomie juridique de vos filiales. Vos filiales ne font que répondre, ou en tout cas fournir le service ou le produit dont vous faites la promotion et qui, soi-disant, respectent les droits fondamentaux, le droit de l'environnement, etc. Donc il y a cette espèce de paradoxe aujourd'hui où, pour satisfaire une demande, qui est une demande citoyenne et une demande de consommateur, ils ont évidemment flairé que c'était très important aujourd'hui de se présenter comme ça, sous son meilleur jour. Et que c'est ça qui va générer des ventes et qui va les mettre au top de l'image vertueuse, éthique d'une entreprise. Et le retour de bâton, finalement, commence maintenant. Et le droit, de ce point de vue, permet, en utilisant des notions qui n'étaient pas associées à ce... Elles n'étaient pas préétablies, préméditées. On arrive maintenant à faire ressortir des principes, par exemple, très basiques. La notion de gestion en bon père de famille. C'est un principe qu'on a l'occasion d'utiliser dans notre langage quotidien, mais qui est un principe de droit, même en droit des affaires, en droit des contrats, où c'est du bon sens, mais c'est du droit aussi. Et c'est un droit mou, qui est assez peu... il n'est pas planté dans le décor, c'est une espèce de coutume. C'est quelque chose qui est un peu dissous dans l'environnement. Eh bien, en ramenant ce genre de notions juridiques, on arrive à bâtir des argumentations en leur disant, écoutez, en bon père de famille que vous êtes, vous, société mère, vous avez à surveiller vos filles. Et ça, quelque part, c'est assez récent de pouvoir mettre en œuvre ça. Et ça fait partie des outils qu'on est en train de mettre en œuvre pour... Et je vous exposerai un certain nombre de résultats qu'on a obtenus ou qui sont en cours d'obtention, espérons-le. Donc c'est pour ça qu'il y a de l'espoir, malgré tout, dans cette espèce d'état des lieux qui est assez négatif, où c'est le règne de l'impunité, encore jusqu'à maintenant. Il y a des petits coups d'épingle dans cette montagne d'impunité qui commencent à porter leurs fruits et qui derrière, surtout avec une actualité comme celle qu'on vit ces dernières semaines, commencent quelque part à motiver les régulateurs, c'est-à-dire les États, et un retour à l'État en ce moment. C'est complètement indéniable, en tout cas pour sauver le système financier international, on a mis les moyens là. Ça veut dire derrière que dans ce contexte actuel, on a historiquement rarement été dans des conditions où des règles du jeu plus claires peuvent être établies. Donc il y a une sémantique du développement durable, de l'intérêt général qui a été utilisé par les entreprises pour promouvoir leurs produits, pour le business, qui commence à se retourner contre eux. Cette sémantique, par ailleurs, nous, on utilise la sémantique des entreprises, pareil, pour leur retourner un reflet du côté des ONG qu'on représente ou des citoyens victimes, en leur parlant le même langage qu'eux. On utilise des termes comme par exemple la concurrence loyale. Vous, entreprise, aujourd'hui, même si vous êtes leader sur votre domaine, vous subissez la concurrence déloyale d'opérateurs qui utilisent les délocalisations des pays où on peut faire travailler des gens à très bas coût, qui bossent le dimanche, dont les heures supplémentaires ne sont pas rémunérées, qui font travailler des enfants, qui n'ont aucune contrainte environnementale et qui déversent tous leurs déchets toxiques dans les usines ou les ateliers, dans les rivières, etc. Tout cela, finalement, ce n'est pas bon pour vous. Parce que vous qui vous prétendez justement protecteur de l'environnement, qui faites du business vertueux, vous-même, vous ne tirez pas avantage sur le marché puisque vos produits sont mis en concurrence dans les supermarchés avec des produits qui, eux, par contre, ont une origine plus que douteuse. Donc vous-même qui vous prétendez vertueux, vous avez besoin de règles du jeu plus claires, afin d'établir des règles de concurrence loyale. Donc il y a une espèce de sémantique qu'on retourne et qui aujourd'hui commence un peu à porter ses fruits. et qui, quelque part, un peu bouscule des fondamentaux. Moi, j'avoue, j'ai toujours un grand plaisir à voir la mine déconfite à mesure, dans un certain nombre de conférences ou de procédures de négociation qu'on mène, d'avoir en face les avocats qui commencent à se réduire un petit peu dans leur certitude, qui étaient campés sur ces principes, notamment le principe que j'évoquais tout à l'heure, l'autonomie juridique des filiales. Vous ne pouvez pas tout simplement nous reprocher quoi que ce soit, nous, société mère, de cette filiale basée à l'étranger. Et à mesure que l'on expose un certain nombre d'arguments, c'est quand même un vrai plaisir de constater que ça affaiblit assez fortement le corpus juridique jusqu'à maintenant sur lequel il se base systématiquement pour parler d'impunité. Donc il y a une vraie évolution en ce moment. Moi, ça fait peu de temps que je suis dans le monde des ONG. Je l'ai observé de loin à l'époque où j'étais au Tchad en 97. J'observais le monde altermondialiste avec une grande curiosité, un grand intérêt à distance. Je l'ai depuis rejoint. Et la dimension juridique dans l'univers des ONG est assez récente. Elle en est à ses balbutiements, à vrai dire. C'est pour ça que Sherpa s'est assez vite fait repérer, puisqu'on est vraiment dédié à cet outil qu'est le droit. Et finalement, à force de discussions j'exposerai tout à l'heure le Grenelle de l'environnement, où on a largement contribué à un certain nombre de choses. Le volet juridique prend une certaine importance. On s'aperçoit que cet outil, le droit, peut être utile. Et quelque part porteur d'espoir, plus que, en anglais, on indique le blame and shame, c'est-à-dire que la dénonciation, l'emmagasinage de preuves et la publication via des conférences de presse, des rapports de grandes ONG. Après ça, on fait quoi? C'est-à-dire qu'il peut y avoir un bon coup médiatique où on met vraiment au pilori une entreprise. Mais derrière, s'il n'y a pas le droit qui suit, s'il n'y a pas un coup de chicotte, ils vont recommencer. Ça va perdurer. Donc là, le droit arrive maintenant au bon moment dans tout ce contexte-là. Et on s'aperçoit, finalement, avec un peu d'imagination, que même sans changer les normes à l'heure actuelle, bon, il y a un certain nombre de vides juridiques à combler. Mais même avec un statu quo, en réinterprétant des articles du code, des codes pénaux, du code pénal, du code civil existant, on arrive déjà à ébranler la mécanique très bien huilée qui perdurait depuis des décennies sur ces sujets-là. Donc je voulais mettre en évidence ça, c'est ce côté autonomie juridique. Je voudrais évoquer les autres obstacles qu'on peut rencontrer et qui font que l'éthique aujourd'hui est bien souvent simplement un outil marketing qui n'est pas suivi des faits. Le lobby, qui est donc l'utilisation de l'influence auprès des décideurs dans tous les circuits des régulateurs, qu'il s'agisse du Parlement, de l'Union européenne, de l'ONU, toutes les instances qui sont en mesure d'émettre des régulations, des contraintes un petit peu plus fortes, sont aujourd'hui, et à chaque fois que nous, dans nos aventures de lobby aussi, puisque de notre côté on essaye de faire valoir notre point de vue, dans toutes ces instances-là, on a toujours l'impression d'arriver après nos adversaires. On arrive toujours en terrain ennemi. C'est assez spectaculaire de voir à quel point nous, quand on arrive pour présenter un certain nombre d'argumentaires, récemment, en juillet, j'étais devant deux commissaires européens, Verhogen, qui est le commissaire européen au commerce, et Splida, qui est l'ancien Premier ministre tchèque, qui est conseiller européen aux affaires sociales. Les deux nous ont reçus, mais pour une seule raison, c'est que nous étions en phase 3, et on représente 250 ONG, là, dans cette instance, 250 ONG provenant de 16 pays européens. C'est la seule et unique raison pour laquelle ils nous ont reçus. C'est-à-dire qu'on est influents. S'ils nous reçoivent pas, ils savent qu'ils se mettent à dos d'un coup, en une fraction de seconde, 250 ONG qui ont quand même une certaine force de frappe dans leurs pays respectifs, mais aussi à l'échelle de l'Union européenne. Mais s'agissant du fond, du message qu'on venait leur transmettre, des propositions qu'on venait leur apporter, on sentait bien que ce n'était pas le sujet pour eux. C'est-à-dire qu'ils nous ont expédié la réunion en à peine une heure. Les sujets, évidemment, qu'on était amené à évoquer avec eux, réclament un chouïa plus de temps quand même. Ça serait bien qu'ils nous reçoivent, en tout cas que leurs conseillers nous reçoivent un peu plus longuement. Mais on voit très bien que là, l'environnement dans lequel on est arrivé, ça sentait encore nos adversaires qui étaient quelques heures avant au téléphone avec eux, en train de leur dire attention, les propositions qu'ils font sont inacceptables, il est hors de question qu'on en arrive à ce genre de régulation. Ça va générer, et c'est souvent l'argument, des milliers de suppressions d'emplois. Si nous, les Européens, on prend les devants, les Chinois vont nous prendre encore des parts de marché. il y a toute cette sémantique derrière qui fonctionne extrêmement bien à l'égard des régulateurs, qui évidemment ont bien souvent du mal à prendre ce risque-là quand on leur évoque ce genre d'argument. Donc le lobby, de ce point de vue, est un des plus gros obstacles que l'on rencontre. Un des autres obstacles qu'on rencontre, c'est l'obstacle politique au sens là justice. C'est-à-dire que tout à l'heure, je l'évoquerai aussi, je vais y venir à force de l'annoncer, mais sur les dossiers précis de Sherpa, j'apporterai quelques illustrations. Le système judiciaire français, qui est celui qu'on utilise le plus, un procureur de la République, surtout en ce moment, n'est pas le plus grand garant d'indépendance. Les pressions politiques sur certains dossiers que l'on initie sont intenses. Les procureurs nous en parlent et sont désespérés de nous dire que, écoutez, là, je suis désolé, mais je vais être obligé d'émettre une ordonnance de non-lieu sur ce dossier. Pourtant, l'enquête a donné lieu à des preuves qui sont suffisamment substantielles pour, dans un autre registre, désigner un juge d'instruction qui irait encore plus loin dans les investigations. Mais moi, j'ai un cordon ombilical avec la chancellerie et j'ai reçu des instructions. Donc je vous annonce, dans quelques jours, je vais émettre une ordonnance de non-lieu. Ça, c'était valable, par exemple, sur un cas dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une procédure judiciaire qu'on a intentée à l'encontre de plusieurs chefs d'État africains, notamment Omar Bongo, Denis Christel Sassou Nguesso, Obiang Nguema de Guinée équatoriale, Blaise Compaoré, Eduardo dos Santos de l'Angola, pour détention de biens immobiliers en France, d'une valeur assez substantielle. Je pense que la seule raison pour laquelle il y a eu une enquête préliminaire, c'est parce que Nicolas Sarkozy venait juste de se faire élire. Et qu'il était quand même de mauvaise aloi, juste au moment de son arrivée en poste, de refuser le principe même d'une enquête préliminaire. Donc il a laissé l'enquête se poursuivre. Elle a eu lieu pendant 6 mois. Les services du pôle financier de Paris ont fait une enquête assez remarquable. On avait émis en fait un rapport qui dénonçait la possession par ces chefs d'État et leurs proches d'un nombre très conséquent de résidences, très luxueuses, dans le 16e arrondissement de Paris notamment. Et on a utilisé une jurisprudence et un certain nombre d'outils juridiques qui permettent d'attendre de la part du système judiciaire que quand des gens possèdent des biens dont la valeur est constitue un gouffre par rapport à leur rémunération officielle, peut-être qu'il y a moyen de demander au système judiciaire de faire la lumière sur d'où vient cet argent. Donc on a utilisé des jurisprudences sur ce sujet-là qui ont forcé le procureur de la République à ouvrir une enquête. Cette enquête a donné lieu à des découvertes assez intéressantes. On a par exemple les policiers qui ont pu découvrir dans les résidences des voitures de luxe. Je vous expliquerai pourquoi j'évoque ce cas des chefs d'État, parce que cet argent-là qui leur a permis finalement d'acquérir tous ces biens immobiliers, d'où vient-il ? Il vient tout simplement de l'exploitation des ressources naturelles des pays en question. Et on verra qu'entre les compagnies pétrolières et les établissements financiers, il y a un certain nombre de mécanismes encore très opaques. Eva Joly s'est cassé les dents là-dessus. On poursuit les dossiers d'Eva Joly sur ce sujet-là, en fait. Hein. On prend la relève là-dessus. Et on travaille avec elle. Des voitures de grand luxe ont été découvertes dans un certain nombre de résidences. Donc les policiers qui ont fait l'enquête ont poursuivi le jeu jusqu'à aller demander aux concessionnaires les dossiers d'acquisition des véhicules en question. Et on a fait des découvertes assez rigolotes. Par exemple, bon, Mercedes, Bentley, Maserati, Veyron, Ferrari, etc. Certaines d'entre elles, le dossier d'acquisition donnait lieu à la remise d'un chèque. Là, en l'occurrence, il y en a plusieurs de ce type-là, mais tiré sur la pairie du Gabon, qui a un compte bancaire à la Banque de France. C'est-à-dire que c'est le trésor public gabonais qui a acheté une Mercedes de grand luxe à la femme d'Omar Bongo. Et comme ça, il y en a pléthore. Le nombre de véhicules qui ont été découverts est assez conséquent. Et là, le moyen de paiement qui est utilisé est juste tout simplement la preuve irréfutable que c'est l'argent public qui a été utilisé pour acheter une voiture à des fins personnelles. Donc avec même 10% des éléments qui sont sortis de cette enquête, un juge d'instruction aurait dû être désigné. Là, on a été confronté à une décision politique, et évidemment pas une décision juridique. Donc ça fait partie des obstacles. Celui-là est évidemment extrêmement politique, ce dossier, puisque on a foutu un petit peu le bordel d'ailleurs dans les relations diplomatiques entre le Gabon et la France sur ce sujet, puisque après le dépôt de la première plainte il y a un an et demi, Jean-Marie Bockel s'est senti les épaules pour lui aussi tenter de faire une déclaration officielle en tant que ministre de la Coopération. Nous allons mettre fin aux pratiques de la France-Afrique. Ça a profondément irrité Omar Bongo, qui, dans les 10 jours qui ont suivi, a obtenu le limogeage de Jean-Marie Bockel, qui est passé secrétaire d'État aux anciens combattants, si je ne m'abuse. Qui est un poste tout à fait honorable, mais voilà, c'est une mise au placard quand même. Hein. Ce qui prouve à quel point, et donc là j'en finirai sur ce dossier, mais il est assez emblématique quand même, c'est-à-dire que l'avocat d'Omar Bongo, à un moment, face aux menaces d'une évolution un petit peu trop contraignante de ce dossier, l'avocat d'Omar Bongo a dit « Est-ce que vous voulez qu'on ouvre la marmite ?» En fait, pour ainsi dire, on vous tient pas la babichette aussi, c'est-à-dire qu'on a des dossiers nous aussi. Donc il y a cette espèce de jeu dans ces situations-là, où évidemment se mélangent plein de choses. On a la position de la France en tant qu'ancienne puissance coloniale, des vieilles habitudes qui ont été prises et qui perdurent, et la remise en cause de ces mécanismes bien huilés, évidemment systématiquement, génère une espèce de réaction épidermique. On ne lâche pas l'affaire pour autant. On a de nouveau déposé cet été un recours, avec cette fois à nos côtés une grande organisation internationale qui s'appelle Transparency International, qui est une organisation qui est assez connue pour classer les pays par le taux de corruption. En tout cas, la façon dont, je ne sais plus quel est le libellé exact, mais en tout cas, il y a un classement annuel qui est toujours redouté, qui sort sur le sentiment de corruption dans différents pays. Ils sont à nos côtés cette fois. Ça change un petit peu la donne, parce que déjà, c'est historique, ce qui veut dire qu'on a fait un boulot qui a été remarqué, c'est qu'ils ont accepté pour la première fois de devenir plaignant dans une plainte judiciaire. Dans l'histoire de Transparency International, c'est une première. Et ils sont très contents de cette première. Ils veulent qu'on recommence. Dans d'autres juridictions. Parce que évidemment, là, par exemple, j'en finirai sur ce dossier ensuite, mais la France, c'est pas le meilleur contexte pour qu'on aboutisse sur la procédure. On s'en est aperçu, on s'y attendait, mais l'idée, c'est comme on maîtrise particulièrement bien le droit français, on a tenté le coup en France, et puis on avait un rapport extrêmement exhaustif sur les biens immobiliers, qui avait été élaboré d'ailleurs, pour information, par le CCFD, Comité catholique français développement, et qui avait fait un rapport extrêmement fouillé sur ce sujet, qui a été un peu la matière première de la plainte. On va dupliquer ça dans d'autres juridictions. On va aller à Genève, on va aller au Liechtenstein, on va aller en Espagne, on va faire ça en Angleterre aussi. Et à force, il va bien y avoir une enquête qui aboutira, puisque là, en France, jusqu'à maintenant, elle n'aboutira certainement pas, mais on perdurera là-dessus. Je vais peut-être vous exposer un certain nombre d'autres dossiers de Sherpa, comme ça vous donnera une idée assez précise sur la façon dont on essaye de combattre ces excès de la mondialisation. Areva, au-delà de la question du nucléaire, c'est aussi des mines d'uranium. On avait été contacté il y a 5 ans maintenant par les mineurs des mines d'uranium au Niger, qui nous disaient « Écoutez, il faut vraiment que vous veniez voir nos conditions de travail. Elles sont déplorables. Est-ce que vous pourriez nous aider ?» Donc on a fait une enquête qui a duré 3 ans, qui a donné lieu, de façon très précise, à un recensement des pratiques de protection des travailleurs dans les mines, qui étaient inexistantes. Pendant 25 ans, les gens, ils allaient dans la mine d'uranium en shirt, en t-shirt. Et par ailleurs, si derrière, avec le temps, ils ont fini par un petit peu s'intéresser à cette question sanitaire, les tests qui étaient faits, les mesures de radioactivité qui étaient faites sur chacun des mineurs, aucun des mineurs n'a eu jamais les résultats de ce qu'on appelle les dosimètres. En fait, c'est des dosimètres où on peut établir le nombre ou la quantité de radioactivité que les gens peuvent porter en eux après une journée de travail. Aucun des travailleurs, pendant des années, n'a eu un seul résultat du diagnostic, finalement, des mesures qui ont eu lieu sur leur organisme. C'est-à-dire qu'il y a une opacité complète. Areva, c'est une grosse maison quand même. On parle de l'indépendance énergétique de la France. Donc là, évidemment, on a été extrêmement gênés aux entournures. Pour les premières semaines de l'enquête ont été très dures. On nous a même empêchés d'accéder au site. Mais à force de persévérance, on y est parvenu. On a émis un premier rapport en 2005 et qui a donné lieu à des réactions, cette fois, de citoyens gabonais, anciens salariés de l'ancienne mine qui n'est plus en exploitation, détenue par Areva à l'époque. Ils ont dit, mais tout ce que vous avez mis en avant, mis en lumière s'agissant du Niger, on a vécu exactement la même chose chez nous. Venez voir. Donc cette fois, on y est allé aussi. Cette fois, on a pris à nos côtés Médecins du Monde, parce que dans un premier temps, on avait la CRIRAD. Je ne sais pas si vous connaissez la CRIRAD, qui, sur ce sujet-là, est extrêmement pointue. En plus de la CRIRAD, cette fois, pour le Gabon, on s'est associé avec Médecins du Monde, pour que sur le volet médical, on soit encore plus pertinent qu'on avait pu l'être jusqu'à maintenant, puisque ce n'est évidemment pas notre spécialité. Rebelote, même diagnostic, même sanction, c'est-à-dire le diagnostic juridique après cette enquête, nous permettait d'émettre un rapport qu'on a publié. Et en avril 2007, on a fait une conférence de presse à la Maison de la Radio. Et ça, c'est toujours assez marrant de constater à quel point les boîtes sont très bien informées, surtout celles-ci. Enfin, on est sur écoute, hein, d'ailleurs, en permanence. Deux semaines avant la conférence de presse, il y a eu une annonce par communiqué de presse interposé par Dan Lauvergeon indiquant que Areva allait mettre en place des observatoires sanitaires sur tous leurs sites miniers dans le monde entier. Et que ça fait partie d'une stratégie de très long terme, déjà. C'est vraiment très longtemps que c'était dans les cartons et maintenant ça arrive, comme par hasard, deux semaines avant notre conférence de presse. On s'en réjouit, on s'en félicite, certes. Et dans ce communiqué de presse, elle appelait les ONG éventuellement intéressées à contribuer. Donc on a frappé à la porte. Et le rapport les gênait beaucoup, puisque les 5-6 dernières pages du rapport, ça consistait à démontrer que, en l'état, demain, on peut déposer plainte contre Areva. Alors encore une fois, on revient à la problématique, ce sont des filiales d'Areva, nigériennes, gabonaises, et on va chercher pourtant la responsabilité de la maman, la société mère. Avec une articulation juridique qui a manifestement suffisamment convaincu le service juridique d'Areva pour que quand on les appelle, en rebondissant sur cette invitation faite aux ONG de venir contribuer à l'élaboration de ces observatoires sanitaires, ils nous ont répondu très favorablement. Là, on a reçu une lettre très aimable d'Anne Lauvergeon en disant « Mais bien sûr, venez et je vous mets en contact avec un tel, un tel, un tel. » Ça fait 18 mois qu'on discute avec eux. Et ça, c'est un peu notre particularité. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus des obsédés du judiciaire. On sait qu'il faut être pragmatique et puis discuter avec les entreprises. Celle-ci n'est pas des moindres. Les incidences politiques sont énormes. Mais après 18 mois, a priori, d'ici la fin de l'année, les observatoires sanitaires vont être mis en place. En tout cas, le protocole d'accord va être signé. Je ne dis pas qu'on a gagné sur toute la ligne, mais il y a un moment, et ça c'est un peu ce côté dangereux, je dirais, de notre activité, c'est qu'il y a un moment, le jusqu'au boutisme, il doit s'arrêter. Il faut qu'on trouve au moins une voie de progrès, et ça peut nous être reproché de temps en temps par certains, d'autres au contraire qui trouvent que ce sont des grandes victoires. Nous, on se retrouve souvent au milieu d'un côté des multinationales qui nous prennent pour des obsédés du judiciaire activiste, certaines ONG qui nous considèrent qu'on est des traîtres, parce qu'on ose même discuter avec ces entreprises, au milieu les universitaires, puisqu'on intervient sur le débat théorique aussi, qui dit « Mais qu'est-ce que vous venez foutre là, vous, les ONG ?» C'est notre giron, ça, la théorie. Qu'est-ce que vous venez encore apporter des contributions ? On a toujours l'habitude d'être un peu entre deux eaux, au milieu, critiquer, ce qui nous fait dire qu'au final, peut-être qu'on avance dans la bonne direction, quelque part. Donc, Areva est un exemple parmi d'autres de la façon dont on essaye de procéder. Alors, l'éthique dans tout ça, c'est quand même le sujet, mais l'éthique, elle est omniprésente. Puisqu'Areva, vous avez remarqué leur campagne de pub depuis l'année dernière. Là. Vous avez vu cette petite campagne de pub en film d'animation où on voit l'uranium qui est extrait. Il faudrait en fait, tout début du clip, au moment où l'uranium est extrait, consacrer au moins 30 secondes de plus au clip. J'aimerais bien d'ailleurs, s'il y a un certain nombre de réalisateurs ou de films d'animation, qu'on fasse une espèce de version propagande de ce clip publicitaire pour aller un petit peu plus dans le détail sur la phase initiale de l'extraction de l'uranium et d'y mettre les mineurs en t-shirt et en short, comme ça a été le cas pendant des décennies, pour montrer que là, il y a un petit truc qui cloche. Donc, leur campagne à l'heure actuelle, en plus, ils surfent sur les émissions de CO2 qui sont aujourd'hui le grand danger, et le nucléaire, évidemment, a une grande vertu là-dessus. Donc, il y a cette espèce de mélange des genres qui fait que la force de communication de ce genre de grande entreprise, néanmoins, est quand même ébranlé quand un dossier bien monté, avec une investigation bien menée, peut amener à des progrès. Donc on verra si ces observatoires sanitaires, j'espère que vous en entendrez parler en bon terme dans les prochains mois. Avec un processus d'indemnisation, par ailleurs, aussi. C'est évidemment essentiel. C'est-à-dire que ces personnes qui ont vécu dans ces conditions-là, dont certains sont mortes, on parle de salariés expatriés aussi, d'ailleurs. Il y a une représentante des salariés expatriés qui s'appelle Jacqueline Godet, qui a perdu son mari et son beau-frère, qui ont travaillé dans l'usine d'uranium de Mounana, au Gabon, qui est complètement désespérée. Le jour où elle vient à nous, il y a 5 ans, je ne sais pas comment me battre contre ce mastodonte, et qui, en voyant la stratégie qu'on avait mise en place, considérait que vraiment ça valait le coup de nous faire confiance, et on est encore là, dans ce processus de discussion, qui n'aboutit pas encore concrètement, mais jusqu'à maintenant, tout le monde est derrière nous, et tout le monde nous a fait confiance, donc maintenant c'est à nous de la mériter cette confiance, et de concrétiser ce qu'on a essayé de monter. Un autre dossier, qui, lui, relève du droit social, et encore une fois, la même problématique, on la rencontre toujours, c'est le dossier qui concerne le Congo et le Gabon, et des usines de manganèse, et une société qui s'appelle la Comilog, qui a licencié 1000 personnes il y a 17 ans, 1000 Congolais, qui ont été licenciés sans indemnité, du jour au lendemain. Après une catastrophe ferroviaire, en fait. Tous ces salariés étaient dédiés à la ligne ferroviaire entre le Gabon et le Congo qui permettait de faire transiter le manganèse. Ils ont été licenciés du jour au lendemain sans aucune indemnité. Et le représentant de ces salariés, qui sont 868 aujourd'hui, parce qu'il y en a quelques-uns qui nous ont quittés, est venu nous voir et nous expliquer sa situation. Ça a donné lieu, après une élaboration d'une stratégie juridique, à un dépôt de plainte complètement inédit en Europe, à notre connaissance en Europe, mais peut-être ailleurs, par ailleurs. On a déposé plainte devant le Conseil de Prud'homme de Paris, au nom et pour le compte de ces 868 citoyens congolais. Complètement inédit. Les conseillers prud'homaux ont accueilli ce dossier en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Ils ont été extrêmement favorables, d'ailleurs. Ils nous ont dédié une pièce pour ce dossier-là, qui est un dossier d'ampleur quand même, 868 individus. Et l'audience, la première audience a eu lieu le 9 octobre. Et je vais vous raconter juste la façon dont ça s'est passé cet été. Le département des ressources humaines de la société mère, qui par hasard est une filiale de Areva, ça s'appelle Eramet, a tenu à nous demander où est-ce qu'on en était sur ce dossier. Au bout d'un quart d'heure de conversation, il a constaté qu'on était assez bien charpenté. Il s'est dit, là, on n'est pas bien. Il pensait s'être débarrassé de ce dossier, ça fait 17 ans. Pensez-vous, il y a prescription. C'est fini ce truc-là, on a passé la poussière et sous le paillasson, enfin c'est terminé. Non, nous on revient, on arrive, on a argumenté, on a chiffré le montant dû à ces salariés. Et le miracle est incroyable, c'est que 2 semaines après cette conversation, comme par hasard, le premier ministre congolais ordonne au trésorier payeur général congolais de payer ses anciens salariés de la Comilog rubis sur l'ongle tout de suite maintenant. C'est une chose que tout le monde attendait depuis 17 ans. Un miracle, c'est fabuleux, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? C'est évident. Sauf que ce qui est drôle, c'est que les salariés ont dit niette. Ça ne nous intéresse pas. Nous, le dossier maintenant, il se passe à Paris, au Conseil des Prud'hommes de Paris, et qu'est-ce qu'ils voulaient distribuer? Ils voulaient distribuer l'équivalent de 2 millions d'euros, ce qui peut paraître une somme, mais il y a quand même 868 personnes, je vous rappelle, d'une. Et nous, de notre côté, on a chiffré, et ça se situe dans une fourchette entre 45 et 60 millions d'euros. Donc on ne joue pas du tout, évidemment, dans la même dimension. Et ils n'ont pas obtenu satisfaction parce que un certain nombre de tous les salariés, comme un seul homme, parce qu'on a réussi à les convaincre aussi qu'écoutez, ça fait 17 ans que vous attendez 1 ou 2 ans de plus. Ça vaut le coup. Alors heureusement que sur place, on a leur représentant qui est charismatique et qui a réussi à les motiver. Mais ils ont persévéré. Et ils sont allés après toquer à la porte individuellement de tous les salariés qui sont dispersés sur tout le territoire congolais aujourd'hui pour les forcer à accepter de l'argent. Avec des personnes en armes qui accompagnent le représentant de l'État là, pour forcer les gens à accepter de l'argent et signer les reçus. Donc aujourd'hui, on en est là sur ce dossier-là. La prochaine audience a lieu au mois de juin. Vous pouvez être sûr qu'entre-temps, il va se passer encore un certain nombre de choses sur place, parce que le but du jeu pour eux, c'est d'effacer tout intérêt à agir de ces citoyens et de pouvoir prétexter « mais attendez, ces gens-là ont été indemnisés depuis ». voilà le genre d'obstacle que l'on peut rencontrer assez régulièrement dans notre activité. Il y en a un autre qui est intéressant aussi, c'est Monsanto. Je crois qu'il y a Jean a amené le film ou le livre de Marie-Monique Robin. Je pense que ça, certains ou certaines d'entre vous ont vu ce bel opus. Marie-Monique Robin, on travaille avec elle depuis qu'elle a diffusé, avant même hein, d'ailleurs. Il se trouve que William Bourdon, qui est le président de l'association Sherpa, est son avocat. Et donc on entretient une très bonne relation avec Marie-Monique et avec un certain nombre de journalistes d'investigation de grande qualité qui nous donnent des informations. Et puis nous, par ailleurs aussi, des sujets sur lesquels on travaille constituent pour eux des sujets d'inspiration. Monsanto, si vous avez vu donc, le film de Marie-Monique, je ne vais pas y revenir, mais récemment, et donc là ça nous ramène directement à la notion d'éthique. Parler de la Norvège maintenant. La Norvège est un des pays assez vertueux en Europe, en tout cas qui se veut très progressiste sur ces sujets-là. Ils ont de la chance que pour eux, les ressources pétrolières se soient transformées ou aient généré des effets relativement vertueux, parce qu'ils gèrent, disons, relativement bien l'argent lié à l'exploitation de leurs ressources pétrolières. Donc ils ont un fonds pétrolier qu'ils appellent le fonds pour les générations futures. Donc ce fonds, avant d'investir, de placer l'argent pour assurer la subsistance, les retraites des générations futures, ils s'enquièrent de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises dans lesquelles ils vont mettre leur argent. Monsanto figure encore dans leur portefeuille de clients, dans leur portefeuille d'entreprises dans lesquelles ils investissent. Et c'est là que les limites de l'éthique, y compris pour un gouvernement tel que le gouvernement norvégien qui se veut exemplaire, se constate et c'est assez spectaculaire ce qui s'est passé dernièrement. Monsanto en Inde fait travailler plusieurs milliers d'enfants de moins de 14 ans, à 80% des filles. C'est le truc qui, pour l'image d'une entreprise, est le plus catastrophique. Il n'y a rien de pire. Nike, au bout d'un moment, même si je ne suis pas le dossier de près de Nike, mais quand a été dénoncé le travail d'enfants pour la fabrication des chaussures, etc., il y a quelques années, Nike a été extrêmement gêné, a vraiment tout mis en œuvre, investi énormément d'argent pour un petit peu reconsidérer toute cette question-là. Monsanto, ils ont fait très fort. En Norvège, ils ont ce qu'on appelle un conseil d'éthique. Ce conseil d'éthique, il fait des enquêtes. Et après, il conseille au gouvernement et au fonds pétrolier d'investir ou de désinvestir dans telle entreprise. Le conseil éthique a émis une recommandation l'année dernière en disant « Monsanto, désinvestissez. C'est scandaleux ce qu'ils font. » Et je connais l'enquêteur norvégien qui a fait ça. On s'est rencontré dernièrement à Berlin. Il m'a dit « Écoute, moi l'enquête que j'ai faite, elle est bien charpentée. Ils n'ont pas voulu publier un certain nombre des éléments les plus compromettants. » Ce qui donne une idée des limites de l'éthique, même au sein d'un gouvernement comme le gouvernement norvégien. Et ce qui est intéressant, par contre, c'est que des gens qui y travaillent, qui sont profondément engagés, et notamment cet enquêteur, c'est le cas, se dit « Bien, j'ai beau avoir fait cette mise en garde, après 3 ans d'enquête, et le détail, en fait, c'est qu'en Inde, Monsanto exerce son activité au travers de 3 sociétés différentes. » On en revient toujours à la même problématique de la société mère et de la filiale. Le gouvernement n'a regardé que l'une d'entre elles, qui est la filiale, la fille, à 100% de la société mère. Mais les deux autres, qui ne sont détenues qu'à 25%, c'est-à-dire que c'est une petite, petite fille, ils se sont dit, on n'a pas regardé de plus près, nous on s'intéresse qu'à la fille à 100%. Et la fille à 100% a fait des progrès, d'énormes progrès. Mais la filiale à 100% ne représente qu'une part, pas marginale, mais assez infime de l'activité de Monsanto en Inde. Donc vous constatez là qu'encore une fois, on en revient à cette espèce d'anomalie qui fait que même un gouvernement qui se veut vertueux se cache derrière cette idée d'autonomie juridique en disant « je vais vraiment juger le comportement éventuellement vertueux et éthique d'une entreprise seulement pour sa filiale à 100% ». Parce qu'ils considèrent que les autres, Monsanto détient 25% dans l'une, en disant c'est pas que eux seuls qui décident. Donc moi, comme je vise Monsanto au sens large, sur l'Inde, je ne m'intéresse qu'à celle qu'ils détiennent à 100%. Et cet enquêteur, qui lui est très engagé personnellement, va nous remettre tous les éléments qui n'ont pas été publiés. Donc, pour info, dans les prochains mois, on est en train de construire des dossiers juridiques à l'encontre de Monsanto avec, et ça c'est quand même des touches d'espoir, parce que même si c'est un petit peu, c'est pas du catastrophisme, c'est la réalité que je vous expose sur certains dossiers, et il y en a bien d'autres, il y a un réseau d'avocats en Inde qui coordonne 200 avocats sur tout le territoire indien. Une vraie force de frappe, et on travaille ensemble sur ce dossier. Donc évidemment, on sait à qui on a affaire, hein. Ce sont des grands méchants loups quand même, les gens de Monsanto. Si vous avez vu le reportage, vous avez vu à quel point ils sont influents. La scène est hallucinante quand George Bush, si vous vous souvenez de cette scène, où George Bush, dans un hangar qui doit appartenir à Monsanto, se fait prendre entre quatre yeux par deux représentants de Monsanto. Donc là, c'est George Bush père. À l'époque, il n'était pas président, il était responsable du ministère qui octroie des licences d'exploitation. Et Monsanto faisait du lobby pour obtenir une législation très favorable qui ne distingue pas les OGM finalement des plantes naturelles, pour qu'il n'y ait pas un traitement plus contraignant s'agissant des OGM. Et on voyait les deux représentants parler à Bush droit dans les yeux en lui disant, écoutez, si on n'obtient pas satisfaction, on va changer de ton. Donc voilà un peu comment ces gens se comportent. Ils ont obtenu intégralement satisfaction. Le dispositif légal américain ne fait pas la distinction entre les OGM et le reste. Ce qui a permis à Monsanto de développer la même stratégie à Bruxelles, d'ailleurs. Donc malgré ça, heureusement, on peut compter quand même sur quelques personnes qui, au sein d'un comité dit comité éthique, essayent de faire son travail, se voient confrontées à une décision plus d'ordre politique. On ne désinvestit pas dans Monsanto parce que leur filiale à 100% a fait des progrès, mais qui va nous filer les documents. Donc ça va nous permettre de travailler. Donc il y a un petit peu de touche d'espoir quand même, de temps en temps. J'en suis à combien de temps, Jean? Parce que j'ai encore tout le volet théorique que j'aimerais bien aborder sans être trop chiant. Il y a le Grenelle de l'environnement. J'aimerais bien vous parler un peu du Grenelle de l'environnement. Le Grenelle de l'environnement, on a été intégré dès juillet 2007. Et le volet juridique est un parent pauvre au sens de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et on a fait en tout cas tout notre possible pour remettre vraiment d'actualité le sujet et de l'aborder d'une façon qui fâche les partisans du statu quo. Et c'est assez dramatique de constater que la loi qui a été adoptée dans un grand mouvement d'unanimité il y a 3 jours, dans un contexte de crise financière internationale, les responsabilités des établissements financiers ou la responsabilité des établissements financiers sur les sujets environnementaux donne lieu à un article de 2 lignes et demie. Point. Point à la ligne. C'était quand même l'occasion, dans ce contexte international, pour les parlementaires, au moins symboliquement, à l'occasion d'une première lecture. Une première lecture d'un texte, ça n'engage pas à grand-chose, hein. Ça va passer devant le Sénat ensuite. Après, ça reviendra au Parlement. Voilà, et ça se malaxe, un texte de loi avant d'être adopté. Ils auraient pu quand même un petit peu considérer, dans ce contexte actuel, que c'était le moment pour frapper un bon coup en disant les établissements financiers, dans leur activité, c'est la moindre des choses qu'on puisse attendre de leur part, qu'elles fassent tout pour prévenir les impacts sociaux et environnementaux de leurs investissements. C'est quand même la moindre des choses. Eh bien non. C'est comme d'habitude, et c'est ce qui est dénoncé à longue journée en ce moment sur la crise financière, c'est l'autorégulation. Laissez-nous faire, on s'en occupe. Faites-nous confiance. Donc là, la loi Grenelle 1, de ce point de vue, est un échec patent. C'est une occasion manquée. Néanmoins, comme ils ont décidé de reporter le débat de ce texte au Sénat d'ici le mois d'avril, ça nous laisse, nous, tout le loisir pour faire du lobby, convaincre les sénateurs. Et là, évidemment, tout le travail est dans les couloirs, c'est évidemment assez. Ça prend beaucoup de temps. Je ne vous dis pas à quel point eux-mêmes, on sent eux aussi, les sénateurs, qu'il y a quelqu'un d'autre qui est passé avant nous. Mais c'est le succès du lobby des banquiers qui, pendant toutes les réunions de Grenelle auxquelles j'ai participé, ils venaient là exclusivement pour marteler et le dire 4, 5, 6 fois si nécessaire pendant une réunion de 3 heures. je vous rappelle que de la part des établissements financiers, n'attendez rien. Ce n'est pas notre métier de nous occuper du social ou de l'environnemental. On ne sait pas faire. Donc n'attendez rien de notre part. Ils ont gagné. Ils ont gagné parce que les deux lignes et demie de la loi Grenelle 1 reflètent exactement ce qu'ils attendaient. Et pour terminer, sur l'aspect théorique, après on pourra en parler, je serais très curieux d'avoir votre avis sur ces sujets-là. Mais donc finalement, pour en revenir à tout ça, le droit des affaires, qui est là pour aider, c'est un instrument, c'est un outil, le droit des affaires, pour faire du business aujourd'hui. Ça se traduit par le droit des contrats, ça se traduit par le droit fiscal, le droit comptable, etc. Tous ces droits-là en question, aujourd'hui, sont complètement hermétiques à l'intérêt général. C'est-à-dire que la notion d'intérêt général est quasi inexistante. Et nous, dans notre travail là de contributeurs au débat, essayer d'apporter des solutions, des nouveaux outils juridiques, on essaye de faire des petites inséminations d'intérêt général. Juste pour, à tel moment dans la vie d'un contrat, il faut qu'il y ait telle dose d'intérêt général qui s'intègre. Et ça, c'est notre travail. Mais c'est un vrai bouleversement qui, paradoxalement, est favorisé par ces engagements éthiques que les entreprises prennent très publiquement, à grand renfort de communication. Ils nous ouvrent la porte en grand pour nous donner des outils, des arguments, pour dire le droit des contrats, le contrat c'est l'ADN du droit des affaires. Tous les jours, même nous à titre personnel, quand on commande un café ou un demi dans un bar, c'est un contrat. Dans le droit des affaires, c'est pareil. La vie quotidienne d'une entreprise, c'est le contrat. Si on arrive à inséminer un petit chouïa, à modifier l'ADN du contrat qui a vocation à seulement favoriser la recherche du profit, ce qui est légitime en soi. Mais pour modérer ces excès-là, une petite dose d'intérêt général. Et en fait, là, ça relève du bon sens, ça relève de grands principes de droit qui sont beaucoup plus larges que le droit comptable, que le droit de la TVA, que des trucs très très précis. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'aller chercher dans des sphères juridiques qui englobent tous ces autres petits droits qui constituent le droit des affaires, d'aller chercher des notions incontestables qui sont reconnues dans différents systèmes de droit, différentes cultures du droit, que ce soit le droit des régions musulmanes, le droit asiatique, la common law, etc., qui sont des principes communément admis. Le bon sens, la gestion en bon père de famille, la bonne foi, et de ramener ça, le transformer en quelque chose d'acceptable pour que ça rentre dans l'univers du contrat et que ça se dilue tout au long de la vie d'un contrat de A jusqu'à Z et qu'on ne puisse plus dire que le monde du droit des affaires n'a plus rien à faire avec l'intérêt général. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire aussi au quotidien et on travaille sur un concept de contrat qu'on a baptisé pour l'instant le contrat durable. Donc là, on surfe nous aussi sur le marketing du développement durable. On se dit, développement durable, on en met à toutes les sauces aujourd'hui. On travaille sur le concept de contrat durable. L'idée, c'est de décliner en droit des contrats ce qui relève d'une notion plus politique. Le développement durable, c'est la conciliation des intérêts économiques, sociaux et environnementaux. Et pour préserver et les concilier ensemble. Ben nous, ce qu'on essaye de faire, et on commence à être pas mal avancé, on en est encore au balbutiement, mais en tout cas sur les grandes trajectoires de cette notion, il va nous falloir du temps. On commence à travailler avec le CNRS sur ce sujet-là. Eh bien, intégrer ça en surfant sur cette notion politique extrêmement à la mode pour avoir les arguments, les exposer dans différentes instances pour promouvoir ce principe du contrat durable. Voilà un peu sur le volet théorique, ce sur quoi aussi on s'acharne. J'en terminerai juste sur un point. Notre activité, moi j'ai réduit mon pouvoir d'achat, à la mode de 4 ou 5 ou 6, tous mes copains avec qui je travaillais il y a encore 5 ans sont devenus associés equity dans les gros cabinets d'affaires. Je regrette absolument pas mon choix, je me sens encore plus riche que je pourrais l'être si j'avais poursuivi ma trajectoire. Le boulot est assez risqué sur certains points de vue, puisqu'on remet en cause un certain nombre d'intérêts, on reçoit des intimidations non déguisées. Mais franchement, le jeu en vaut la chandelle et j'avoue que je suis réjoui à chaque fois que j'ai, là c'est en ce moment particulièrement, c'est la période des demandes de stage pour intégrer Sherpa en nombre de plus en plus conséquent. Ce qui me fait dire que quand même, il y a une nouvelle génération de juristes qui d'emblée, et je m'avoue que si je me projette 10 ans en arrière, je ne sais pas si Sherpa avait existé, si je serais comme eux, à frapper à la porte de Sherpa. J'étais plus, moi, je l'admets humblement, dans une trajectoire avocat d'affaires, je vais faire de la thune, je vais m'éclater, je vais voyager. Là, donc, je suis assez réjoui de constater qu'il y a beaucoup de jeunes brillants, hommes comme femmes. D'ailleurs, on est 7 salariés à Sherpa, 4 femmes, 3 hommes. Au niveau parité, on essaie de bien faire. Et ça, c'est assez réjouissant. Ça nous donne de l'espoir. Voilà, je vous remercie.
Bon ben voilà, est-ce que vous avez des remarques, des questions, des... Enfin, au micro, parce que sinon on ne va pas t'entendre.
Je veux dire qu'au début de ce que ce monsieur a parlé, il y a des termes qui ont été employés que moi, personnellement, je ne comprends pas. Quoi. Je ne suis pas forcément... je suis pas lettré, quoi, je veux dire.
Et alors lesquels, par exemple ? Parce que c'est l'occasion que je revienne dessus.
Justement, Non, franchement, j'en sais rien. Il y a eu des mots, enfin, qui étaient plus ou moins techniques et qui ont rapport avec l'argent, enfin, évidemment, et que j'ai pas rêvé à suivre.
Ça peut relever d'autres de termes, j'avoue que. Est-ce qu'on parle des subprimes ou des golden parachutes ? Non, ça. Je crois que ça, tout le monde.
Non, des trucs bien francs. Bien français, si on veut, mais qui doivent être dans le dictionnaire, mais que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... C'est dommage, j'aurais dû...
Ouais, je suis un peu désemparé, là, je dois dire, parce que je regarde mes notes. Qu'est-ce que j'ai puis
Non, mais des termes plus ou moins techniques, finalement. Mais des trucs qu'on n'utilise pas, nous, dans la rue, quoi.
Ah, ma foi, la tâche n'est pas évidente de revenir sur les premières minutes. C'était au début de l'intervention. Est-ce que des notions d'engagement...
Pendant le début du discours, mais de dire quel discours, pardon. C'est salaud, là. Non, mais... Merde, c'était quoi, ça ? Non, mais laisse tomber.
Bon, c'est...
Bon, ça va peut-être me revenir, moi aussi. Là, pour l'instant, j'avoue que je suis sec.
Non, enfin, mais des trucs qui concernaient l'économie.
Oui.
Et les grandes boîtes qui...
La notion de société mère, filiale.
Non, pas ça.
Bien. On va le faire par la négative, non, alors. On va faire en creux.
Non, mais ça, on comprend quand même. Même si on est bête, on comprend. Mais la notion de leur manière de faire et tout, je sais pas, il y a eu des...
Ah oui, alors c'est peut-être quand j'évoquais le fait que les sociétés utilisent le marché du droit en allant d'un pays à un autre.
Ouais, mais là, chercher ce qui m'ennuie, là, c'est que là, tu me parles normalement, que dans ton discours, tu le faisais pas.
J'essaie de m'améliorer.
Tu dis que tu sortais ton texte, et donc là, vu que tu t'adresses à moi, tu me vois. Et eh ben t'as un vocabulaire déjà qui est plus de la rue, et ça c'est bien. Mais je me rappelle plus du mot que je voulais te dire. Enfin, pas du mot, il y en a eu plusieurs.
Bah, c'est pas, on t'avouera que quand on est technicien de quelque chose, c'est pas ce que tu fais, mais on a un vocabulaire qui nous est propre et qui est pas forcément.
Non, mais j'ai très bien compris ça. J'ai très bien compris ça. C'est pas la question. C'est qu'il y a des choses que je n'ai pas compris au rapport aux mots. Disons, en parlant des sociétés qui, avec toutes les magouilles qui pouvaient se faire avec les différents États, il y avait des mots vachement souvent employés, là, que je n'ai pas tellement suivi, quoi.
Et est-ce que ça veut dire pour autant que tu n'as pas compris ce que j'essayais d'exposer ?
Quand même.
D'accord, c'était la sémantique utilisée qui...
Ça
me rassure.
J'ai compris le tout. Non, mais... Je veux dire qu'il y a des mots, tu as c'est pas forcément des termes juridiques que tu as employés, mais des trucs qui sont peut-être communs à ceux qui lisent Le Monde, mais pas à moi, qui ne lis que le journal du centre.
Oui, c'est pas vraiment une question, mais ça rejoint un peu ce que dit monsieur, non peut-être pas dans la compréhension, mais on sent vraiment que... Il s'agit d'une affaire de spécialistes quand même. Bon, leur temps. Et alors, oui, effectivement, vous êtes juriste, vous avez des actions comme ça. Donc voilà, c'est tout. C'est pour dire que on est dans des domaines très très spécialisés et que, alors, bien entendu, comme il s'agit de mondialisation, c'est sans doute aussi pour ça que moi j'ai un petit peu un sentiment d'être un peu à l'extérieur de tout ça. Peut-être parce que je ne m'y intéresse pas assez, hein, ça c'est possible aussi. Ou de façon pas assez pointue. Enfin voilà, c'était juste mais c'est pas pour dire que. Mais si pas ça... forcément pour dire que j'ai pas. Effectivement, j'ai sans doute pas tout compris non plus, mais qu'on sent bien qu'il y a une affaire de spécialiste.
Si ça peut vous rassurer, le Grenelle de l'environnement, parce que un des éléments que je critique le plus, c'est qu'il est franco-français. Il a vocation à s'intéresser à la crise de l'environnement qui ne s'arrête pas aux frontières de la France. Et là, si, ça s'arrête à l'avenue de Ségur où il y a le siège du MEDAT. C'est complètement hallucinant. Borloo, il y a 2 semaines, il a fait son point du Grenelle en s'enorgueillisant de à quel point c'est un grand succès, le processus, etc. Il n'a pas prononcé une seule fois le mot mondialisation. Et c'est exactement les problématiques sur lesquelles on travaille, qu'on essaye de mettre en exergue. C'est bien beau d'avoir des lois en France qui s'imposent sur le territoire français. Si les entreprises qui sont là, et donc là maintenant, on se met dans le contexte de la mondialisation, sont autorisées à faire toutes les crasses qu'elles veulent à l'étranger, à quoi bon ? Et il a raison. Il a raison. Mais par contre, unique au monde et circonscrite à la France.
Moi, j'ai 2 petites questions. Petit 1, savoir comment a été créée l'association Sherpa, de comment c'est venu, c'est un petit historique de la création. Et puis, 2e question, c'est quelles sont les principales sources de financement ?
Ah, une bonne question. La première, William Bourdon. William Bourdon est un avocat qui s'est fait connaître dans plusieurs dossiers. C'est un des artisans de la Cour pénale internationale. Donc, c'est un type qui a vraiment... œuvrer sur l'aspect justice internationale, sur les volets génocide, crimes de guerre, etc. C'est l'avocat d'anciens prisonniers de Guantanamo, par exemple. Et il a été, avant de créer Sherpa, secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme, la FIDH, pendant 6 ans. Et en 2001, pour des raisons a priori de divergence éditoriale, lui considérait qu'il convenait de s'intéresser à la responsabilité des multinationales. C'était pas dans la ligne à l'époque de la FIDH. Donc, ils se sont quittés et il a créé Sherpa dans la foulée, en 2001. Quant au financement de Sherpa, bonne question, il est insuffisant. On est financé aujourd'hui par 5-6 organisations fidèles, au premier rang desquelles la fondation de Daniel Mitterrand, France Liberté. On a 3 fondations, une anglaise qui est une fondation qui finance pas mal d'organisations qui sont engagées dans l'environnement, telles que Greenpeace, Amis de la Terre, etc. Donc c'est un trust anglais qui s'appelle le Sigrid Housing Trust. Ceux-là, ils commencent à nous verser un petit peu d'argent. On a une fondation en France qui s'appelle la Fondation pour le Progrès de l'Homme. Et puis, de plus en plus, puisqu'on a été identifié comme un contributeur au débat théorique, les gens se disent que ça vaut peut-être le coup de financer un peu Sherpa pour qu'ils approfondissent des sujets. Et l'Union européenne, indirectement, via des ONG beaucoup plus grandes que nous et mieux connues et qui savent bien négocier avec l'Union européenne des subventions, ces organisations qui ont reçu de l'argent de l'Union européenne nous commandent des recherches théoriques. Et on vient de signer, et ça j'espère que ça va être appelé à se reproduire, une convention avec l'Organisation internationale de la francophonie, qui nous demande d'élaborer des outils pédagogiques qui vont nous permettre en Afrique, dans un espace qu'on appelle la zone OADA. C'est une zone qui regroupe 17 pays africains. Ça va du Sénégal au Tchad, en passant par le Gabon, la Côte d'Ivoire, etc. Pour aller préparer les juristes du futur dans cette zone-là et ceux en exercice à qu'est-ce que c'est que la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Leur dire c'est quoi les lignes rouges. Et puis pour éviter que jusqu'à maintenant, ils se fassent systématiquement abuser. Puisque un des grands problèmes, c'est l'asymétrie dans les forces au moment où on négocie un contrat. Un investisseur qui débarque essentiellement. On a des dossiers sur l'Amérique latine que je n'ai pas évoqués d'ailleurs, mais j'ai évoqué essentiellement des dossiers qui concernent le continent africain. Mais le plus difficile aujourd'hui, c'est que quand une entreprise intervient, qu'elle négocie un contrat, en face, jusqu'à maintenant, il y a un manque d'expertise qui fait qu'on leur fait avaler tout ce qu'on veut. Mais ça, je sais de quoi je parle, pour avoir passé 4 ans et demi entre le Tchad, le Cameroun ou la Guinée, on est capable de leur faire signer des contrats dont on sait que certaines clauses sont d'aucune utilité et semblent complètement anodines, comme ça au début du contrat, mais qui vont être utilisées dans 3, 4 ans. On sait quels sont les effets de ces clauses-là. Ça donnera une augmentation des tarifs pour les partenaires publics-privés sur l'eau, par exemple. Donc il y a un déficit d'expertise en face qui fait que le rapport de force, quand on négocie le contrat, est tellement déséquilibré que ça donne des contrats non durables. Donc là, par exemple, on a la francophonie qui nous finance pour aller sensibiliser les juristes et les représentants des ministères sur ces sujets-là. Mais on est insuffisamment financé. Et à vrai dire, pour tout vous dire, d'ailleurs, William Bourdon met régulièrement au pot, parce qu'on est passé de 2,5 salariés il y a 18 mois à 7 aujourd'hui, pour vraiment être à la hauteur des défis qui s'ouvrent à nous. Et on a décidé de ne pas déposer le bilan il y a 2 mois, et de prendre le risque de continuer. On a embauché 3 personnes au mois de septembre, des gens qui étaient stagiaires chez nous, maintenant qui sont embauchés, en demandant à tout le monde, mais maintenant il va falloir, comme Sarkozy veut aller chercher la croissance avec les dents, on va chercher nos budgets avec les dents, pour essayer de faire vivre ces 7 salariés. Donc ça, je suis assez content et fier d'ailleurs qu'on ait créé des emplois sur ce sujet-là, mais évidemment, on est insuffisamment financé. Donc,
oui, alors moi la question c'était en fait, est-ce que quand vous intervenez pour défendre une affaire et qu'il y a une loi sur laquelle vous appuyez, est-ce que dans un gouvernement un peu dictature, est-ce qu'elle peut, elle peut l'annuler cette loi, je veux dire, elle peut voter par exemple Vichy, c'est-à-dire qu'un gouvernement puisse voter une loi rétroactive ou une nouvelle loi qui va venir annuler celle qui vous a permis de défendre peut-être une affaire.
Voilà. Alors vous évoquez un point intéressant et ça me permet de rappeler que en fait notre action jusqu'à maintenant, même si ça a tendance à évoluer, notre spécialité ça a été d'utiliser le droit français parce qu'on avait réussi à monter des dossiers jusqu'à maintenant, on systématise ça. On monte des dossiers qui nous permettent d'aller devant les juridictions françaises, compte tenu de la déficience des systèmes judiciaires des pays où sont perpétrées les violations. Ça nous gêne aux entournures d'avoir affaire à un autre État, en l'occurrence l'État français, pour régler des problèmes qui normalement devraient être solutionnés sur place. Mais c'est un fait. Et les avocats ou les ONG sur place avec qui on discute, de toute façon, l'admettent volontiers. Même les juges. Donc avec certains, on a quelques très bonnes relations qui nous disent « Mais évidemment, faites pas ça chez nous. Il va rien se passer. » Donc pour éluder finalement cet obstacle que vous évoquez, on utilise le droit français. Donc on charpente nos argumentaires sur le droit français. Donc là, jusqu'à maintenant... Prenez peut-être le micro pour poser votre question.
Vous avez fini, là, vous ?
Je peux répondre à votre question juste après, monsieur qui a le micro. Allez-y, je vous en prie.
Moi, je vais vous poser une question concernant comment vous appréhendez le dossier sur l'importation de ressources naturelles qui est exploité illégalement dans la déforestation du Cameroun.
C'est étonnant que vous parliez de ça, parce que moi, je suis natif du Cameroun, d'ailleurs, et j'ai exercé mon boulot de conseil juridique et fiscal là-bas, et un de mes plus gros clients, c'était l'entreprise Rougier. J'étais secrétaire de leurs assemblées générales pendant 2 années d'affilée, et ces enfoirés, pour parler vulgairement, excusez-moi, j'ai vu comment ils traitaient leurs actionnaires camerounais. C'est un peu le colon et l'indigène, quoi. On distribue des babioles en faisant passer ça pour des diamants, c'était absolument hallucinant. Non, ça perdure toujours, hein. Les frères Rougier sont toujours là, omniprésents. Pour répondre à votre question, comment on l'appréhende, l'importation de bois illégaux en Europe? C'est particulièrement d'actualité parce qu'on attendait avec grande impatience une disposition au niveau de l'Union européenne. Elle est tombée cette semaine. C'est un processus de lutte contre l'importation des bois illégaux en Europe. Et il y avait en balance deux... les dispositions auraient pu prendre une orientation ou une autre. Une qui avait notre faveur, c'était de demander aux importateurs de justifier et de prouver l'origine légale des bois, des grumes. L'autre, la charge de la preuve incombant à des gens comme nous, qui viendront leur reprocher. C'est celle deuxième-là qui a pris le dessus.
Sans moyen, quoi.
C'est scandaleux, voilà.
Avec moins de moyens, en tout
cas. Donc c'est à nous de le faire. Alors, comment on l'appréhende ? Eh bien là, typiquement, on est en train de peaufiner une plainte. La responsable du pôle forêt et climat de Sherpa était à Londres cette semaine pour travailler avec des représentants d'une ONG anglaise qui s'appelle Global Witness. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Global Witness. C'est des gens qui, notamment, étaient très investis sur le diamant. Blood Diamond, le film avec Leonardo DiCaprio. Si certains d'entre vous l'ont vu. Ils ont été... ils leur ont filé un paquet de tuyaux. Ils sont très connus pour ça. On travaille avec eux sur le sujet du bois parce qu'ils ont une bonne expertise, une bonne connaissance de terrain. Nous, on a le volet juridique. Et on est en train de peaufiner la plainte qui va nous permettre de déposer plainte contre une société danoise qui importe des grumes du Congo, pas du Cameroun, hein, mais du Congo, et qui passe ces grumes par des ports français, notamment Sète et Marseille. Donc là, on utilise le droit français, on a qualifié ça, et ça c'est pour répondre à votre question. Quand un élément d'une infraction a lieu sur le sol français, voilà, ça nous donne la juridiction française. Une grume, le bateau, il suffit qu'il arrive à quai. Même pas besoin qu'il soit déchargé. Il arrive à quai, on a un moyen pour nous utiliser le droit français. C'est valable aussi quand les coupables ou les victimes sont français, mais situés à l'étranger. Ça nous donne aussi la juridiction française. Donc c'est comme ça qu'on contourne l'obstacle. Et pour info sur le Cameroun, on a été candidat à un appel d'offres lancé par le ministère des Eaux et Forêts camerounais, il y a 8 mois de cela, pour faire un audit de la façon dont le ministère travaille. En clair, pour mettre noir sur blanc le processus de corruption et d'évaporation complète et donc d'exploitation illégale du bois au Cameroun. Ah, c'est bien. J'ai quelques jolis dossiers à la maison. Hein. Et en l'occurrence, comme par ailleurs, on dépose plainte contre plusieurs chefs d'État, mais pas Paul Biya, le chef d'État camerounais, il se dit, si on file ce dossier à Sherpa, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir ? Et donc, pour l'instant, l'appel d'offres, vous savez comment ça se passe, un appel d'offres, il y a 2 enveloppes, il y a une proposition technique. Donc, les candidats, on ouvre les propositions techniques de tous les candidats, c'est-à-dire comment on a compris les termes de la mission, qu'est-ce qu'on va faire, comment on compte organiser le truc. Et la deuxième enveloppe, c'est la proposition financière. Ils n'ont ouvert que la proposition technique, ce qui leur permet aujourd'hui de dire, on n'a toujours pas pris notre décision. On sait très bien pourquoi, parce que sont impliqués dedans le fils du chef d'État, les anciens ministres des Eaux et Forêts, tous les plus hauts fonctionnaires, députés, etc. Sans parler des sociétés européennes qui profitent de tout ce business. Et dont Rougier. Et Bolloré. Bolloré dans le bois, moins, mais il est sur suffisamment de crasse, Bolloré, de toute façon, pour qu'on s'intéresse à lui de très très près. Et dans les prochains mois, on s'intéresse à lui de très très près. Papier, gomme arabique, coltan. Le coltan qu'on trouve dans chacun de nos téléphones portables. Le coltan, c'est un conducteur qui, manifestement, a plein de propriétés qui sont extrêmement vertueuses pour la téléphonie mobile. Et dont 80% des ressources de coltan se trouvent dans les zones, comme par hasard, extrêmement agitées depuis le génocide dans le Kivu, au Congo. Et Bolloré, lui, assure le transit entre le Congo et le Rwanda. Donc on s'intéresse de très près à notre ami Bolloré, que j'ai eu comme client, moi, pour ses activités de tabac, de papier à cigarette, de logistique. Évidemment, c'est un... Enfin, il se débrouille bien.
J'ai une question de droit, ou de, je ne sais pas, peut-être de bon droit. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, les États européens, américains ont débloqué des milliards de dollars pour des banques ou des entreprises qui ont fait faillite ou des mauvais placements. Enfin bon, pas de chance pour elles, malheureusement. D'un point de vue du droit ou du bon droit, enfin tous les citoyens français, hein, ceux que je connais, se sentent un peu floués par cette histoire. On se dit, mais de quel droit on donne cet argent à des entreprises? Et bon, voilà, on entend des chiffres incroyables. Alors, est-ce que d'un point de vue du droit, est-ce que c'est, de votre point de vue, évaluable? Et j'ai une deuxième question, c'est vos rapports avec la presse. C'est-à-dire que, est-ce que vous vous sentez ou entendu, et est-ce que vos arguments sont repris par des médias qui ont plus d'audience que des journalistes indépendants que vous avez cités tout à l'heure, que, par exemple, qui ont écrit le bouquin sur Monsanto?
Sur le sujet du rôle de l'État actuellement pour éteindre l'incendie, au même titre que normalement il devrait exercer sa fonction dans d'autres sujets, que sont l'accès à l'eau ou la solidarité internationale, là, c'est assez légitime que l'État intervienne pour mettre fin à un trouble potentiel à l'ordre public extrêmement intense. Il y a une vraie légitimité juridique à ce que l'État intervienne. Là, à vrai dire, je considère que s'ils n'étaient pas intervenus, ils auraient été responsables. Ce qu'on peut reprocher en revanche, et ce qui nous donne maintenant d'ailleurs des arguments après ces dernières semaines, c'est qu'à l'avenir, s'agissant de la solidarité internationale, s'agissant de l'effacement des dettes odieuses de certains pays du Sud, s'agissant du financement de l'accès à l'eau dans le monde entier, là, on mettait fin à la pénurie d'accès à l'eau dans le monde entier avec un claquement de doigts, quelque part, avec tout ce qui s'est passé là. Cet argent injecté, on en prend une proportion, et je crois qu'il s'est évalué entre 100 et 150 milliards d'euros nécessaires par an, pendant je ne sais plus combien d'années d'affilée, mais 4 ou 5 ans, pour assurer l'accès à l'eau à tous les citoyens du monde. Donc évidemment, là, ce qui s'est passé, c'est légitime, parce que ça met fin à un incendie qui aurait pu, malheureusement, intégrer après toutes les strates de l'économie réelle. C'est pas solutionné encore, évidemment, hein, mais c'est quelque part légitime. Et s'agissant du rôle et de la façon dont les médias nous appréhendent, moi, j'ai un mal de chien à faire entendre la question en abstrait, hein, de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises sans avoir une histoire à raconter. C'est-à-dire que le journaliste, il veut une histoire à raconter, donc il faut qu'on lui amène du sang, des larmes, une violation de l'environnement. Donc ils adorent Trafigura avec le Probo Koala qui a déversé ses déchets à Abidjan il y a 2 ans. Alors ça, ils adorent. Ça, ils vont pas arrêter de nous emmerder pendant 2 jours d'affilée au téléphone tout le temps. Oui, hein. Et quand on veut leur parler du Grenelle de l'environnement, du scandale qui se passe en moment, du lobby des banquiers et tout, ils s'en foutent. C'est abstrait. Donc il y a un vrai rôle pédagogique. Il y en a certains, ça y est, qui sont arrivés à maturité, je dirais, à Libération notamment, ou qui régulièrement publient ces 2 ou 3 derniers mois, entre Le Monde et Libération, on a quand même réussi à avoir quelques pages, des pages, pas seulement des articles, mais on a eu une double page entière cet été dans Le Monde sur le sujet des biens mal acquis, ce dossier concernant des chefs d'État africains. Mais on a un mal de chien. Là, il y a une vraie pédagogie à mettre en œuvre.
Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, on passe d'un côté à l'autre?
Des accumulations. Il y a un moment, l'utilisation vicieuse du droit. J'exagère à peine, parce que c'est vraiment l'habileté juridique pour un seul et unique but, encore une fois, de sécuriser le profit d'entités qui sont pas là pour l'intérêt général, et pourtant qui se prétendent être là pour l'intérêt général. Ça m'a agacé au plus haut point à un certain moment. Et j'ai 2 ou 3 anecdotes. Il y en a une en particulier. Quand je m'occupais du plan social à l'époque de la fusion de Total et Elf, j'étais au Cameroun à l'époque, et j'avais rendez-vous régulièrement avec le directeur administratif et financier de Total, qui a absorbé Elf, et à un moment, il m'avait fait attendre dans la salle d'attente, et je lisais la charte éthique de Total. Il se trouve que la veille, l'Erika venait de s'échouer, dans mon coin, je me sentais particulièrement concerné. Comme quoi, souvent, il faut que ça nous touche de plus près. Je me suis vraiment demandé ce que je foutais là. Je fais quoi? Je l'honore, ce rendez-vous, ou pas? Parce qu'après avoir lu cette charte éthique, je voyais qu'ils avaient violé 50% de leurs engagements. Dedans, c'était marqué « Nous allons faire appel aux affréteurs les plus sécurisés, utilisant les bateaux les plus fiables, etc. etc. » Un monceau de mensonges quand on reflète le dossier d'Erika et qui avait échoué la veille. Ça, c'est un dossier parmi d'autres. Et puis, De retour à Paris, où j'ai passé 3 ans après ces 4 ans et demi en Afrique centrale, j'en avais vraiment ma claque de ce concours de la plus grosse quéquette automobile dans ce milieu d'avocats d'affaires qui ne pensent qu'à ça, qui sont systématiquement dans le matériel. Donc il y a un moment, j'ai eu un écœurement du droit d'ailleurs, et quand je suis parti, j'ai bien négocié mon départ, ça m'a laissé 2 ans tranquille. Je suis parti pour ne plus faire de droit. J'avais été tellement écœuré. Je suis parti pour me reconvertir dans ma vraie passion qui est l'art contemporain. J'ai croisé le chemin de William Bourdon, qui m'a ramené à la raison, peut-être, je ne sais pas, pour utiliser le droit d'une façon vertueuse, ce qu'on essaie de faire au sein de Sherpa.
Mais c'était un peu ma question, là. C'était le rapport que vous avez. Ce que vous faites, vous l'avez appris à l'école. Donc c'était le rapport de Sherpa avec la pédagogie et avec l'enseignement du droit, puisque toutes les sociétés font tout ça avec des appuis, des avocats et des gens du droit extrêmement performants. Et ils ont appris la même chose que vous.
Oui, et ce sont des dangers publics. Les avocats, la façon dont ça se passe, je vous donne un exemple. Une consultation fiscale qui donne un conseil à un client en disant « c'est bon ». Vous pouvez, selon la recherche qu'on a pu faire, ne pas payer cet impôt-là dans ce pays-là. C'est une consultation qui peut faire 2 pages. On peut faire plus parfois, mais ça peut faire 2 pages. Moi, j'ai vu des consultations fiscales de 2 pages, vendues 100 000 euros, mis au coffre-fort par le client, puisque le jour où éventuellement il y a un redressement fiscal et qu'on s'aperçoit, le client s'aperçoit, écoutez, moi j'avais suivi vos recommandations à l'époque, et regardez, je suis redressé. Ben, finalement, c'est ni l'un ni l'autre qui paye, c'est la compagnie d'assurance de la société de conseil juridique et fiscal. Donc le jeu est extrêmement vicieux. C'est la prise de risque permanente, c'est la prime au risque. Donc il y a des associés, sans vergogne, je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais il y a des associés dans ces grands cabinets qui prennent ce genre de risque, sans considération évidemment des impacts sociaux ou environnementaux. Ils s'en foutent. Donc il y a des gens qui sont extrêmement bien formés. Il y a une vraie tendance à continuer sur ce côté droit des affaires, recherche du profit systématique. Et nous, indirectement, on constitue un petit vivier de gens qui ont ce même serail, cette même formation, pour essayer, moi par exemple, le diplôme que j'ai fait, je suis diplômé d'un master en Angleterre, en droit international privé, et d'un DESS à Rennes, qui s'appelle le diplôme juriste conseil en entreprise, qui est le diplôme, il y en a 10 en France, comme ça, on est 300 à sortir par an, et derrière, on a tous une voie royale pour tous les gros cabinets d'affaires, donc ce qui a été mon cas. Maintenant, j'en suis sorti. Je sais que ma trajectoire, aujourd'hui, m'amène, en début d'année, dans ce DJCE, à venir présenter Sherpa, mon parcours, ce que j'ai fait, et ça me réjouit qu'il y en ait une stricte minorité, hein, mais qui après m'appelle. En disant j'aimerais bien faire un stage chez Sherpa, etc., etc. Et c'est là que les choses vont se jouer, l'avenir. C'est-à-dire qu'il faut changer un petit peu, encore une fois, l'ADN intellectuel des futurs avocats et avocates d'affaires pour qu'ils considèrent un chouïa plus l'intérêt général dans leur activité au quotidien.
C'était ça. J'attendais cette réponse.
Petite dernière, non ? Enfin, une petite dernière, si vous voulez, si ça vous intéresse, c'est comme vous voulez. Hein. Un petit canon.
Bon, j'ai l'habitude d'être l'avocat du diable. Alors, il y a une trentaine d'années, on trouvait facilement dans les marchés des oranges qui avaient des pépins. Et si aujourd'hui on trouve des oranges qui n'ont plus de pépins et qu'on se fout du goût des oranges, c'est pas Monsanto qui est responsable, c'est le public. Parce que le public, moins il en fait, plus il est content.
Là, vous évoquez la responsabilité du consommateur. Vous avez entièrement raison. On a individuellement un grand pouvoir.
Et là, c'est la parthénogenèse. La parthénogenèse, c'est quand on reproduit sans le mal. C'est grave.
Pas de pépins. Bon.
Je pourrais parler des lois. Je crois que les lois sont parties à déconner complètement. Là, dans les bâtiments là où je suis, On a complètement... Alors, on a l'accessibilité handicapée. On a foutu un arrêté du 1er août 2006 qui dit que maintenant, tout est accessible handicapé. C'est formidable. On ne sait pas qui paye. Bon, ici, quand il faudra refaire le truc, il faudra trouver une rampe, il faudra faire un accès handicapé pour les WC, etc., je sais bien, mais ça va être énorme. En fait, dans les villes, il y a quand même des rampes, hein, il y a des pentes, etc. On aurait mieux fait de faire ça avec, en structurant la ville. Bon, enfin, ça, c'est trop compliqué, mais c'est pour dire que c'est une loi qui passe complètement à côté. On a fait un diagnostic performance énergétique. Moi, j'ai fait une formation de 5 mois, il y a 25 ans, qui était réservée à des gens qui avaient 50 bâtiments. On a vu les économies d'énergie, les trucs comme ça. Aujourd'hui, on nous a pondu les diagnostics, dont le DPE, on prend les gens 4 jours. Au troisième jour, il y a une dame qui demande ce que c'est qu'un pignon. Et ensuite, ils vont dans les maisons, ils ont des logiciels. Vous avez des gens qui ont édité des logiciels très vite. J'étais avec le laboratoire des ponts et chaussées qui m'a dit... Enfin, est-ce que vous avez regardé la cohérence des résultats de ces logiciels? Et ils m'ont dit, bah, il n'y a pas de cohérence. J'étais employé par quelqu'un en diagnostic qui était vendeur de voitures avant, qui se permettait de critiquer mes plans, qui ne connaissait rien. Moi, j'ai le diplôme d'architecte quand même, qui ne viennent pas m'apprendre mon métier. Et ce logiciel avait sorti pour une maison qui est à Varzy, ici, qui était des chambres les unes au-dessus des autres, de faire du solaire. Je lui dis, on ne va pas leur dire de faire du solaire quand il y a 15 mètres de tuyaux. Et il me répond, ce n'est pas notre problème. J'ai dit, si ce n'est pas notre problème de dire des conneries, moi je m'en vais, hein, etc. Et on a plein de trucs, j'en pourrais parler des heures. Bien.
Bon, il y a voilà, une question ici.
Moi, c'est... Ce n'est pas une question, c'était une remarque, puisque vous pratiquez beaucoup avec les ONG. Vous avez parlé notamment du Cameroun, j'y suis allé également, et là je peux vous dire que les ONG ne se comportent pas de manière très brillante vis-à-vis de l'environnement et vis-à-vis des tâches qu'elles devraient faire auprès de la population. Par contre, elles savent rouler en 4x4 énorme, fréquenter les meilleurs hôtels qui existent, alors que le Cameroun, et particulièrement dans le nord, est extrêmement pauvre, et puis il est soumis à la guerre. Alors, je peux vous dire qu'il n'y a pas que du bon dans vos fréquentations avec les ONG.
Je vous expliquais tout à l'heure qu'on a des relations assez houleuses avec certaines ONG, justement, parce qu'on va droit au but, parfois. Et je pense qu'il y a certaines ONG à l'avenir qui vont subir un certain nombre de procédures judiciaires à leur encontre pour irresponsabilité, engagement non tenu, promesses en l'air, formalisées de façon complètement inconsidérée. Il y a des grandes responsabilités de la part des plus grandes ONG, hein, pour certaines, hein, parmi les plus connues. Et si je peux rebondir sur ce que vous disiez... Ah mais tout à fait. Moi, je suis le premier à le faire. Le premier forum mondial sur l'eau que j'ai fait, c'était à Mexico en 2006. C'était le deuxième. Je suis intervenu à la conclusion. Tout le monde s'auto-congratule. C'est génial ce qu'on a fait. Il y a 70 nationalités. Allez, après, on va aller au resto faire la Java et tout. On fait une déclaration finale absolument imbitable qui doit faire 20 pages avec 20 articles de chacun 10 lignes. Ça veut dire qu'on a lu le deuxième article. On ne sait même plus de quoi il s'agissait dans le premier. Des articles tellement longs qu'après l'avoir lu les 10 lignes de l'article en question... On sait même pas de quoi il s'agissait. Et il y avait un article. Et un article particulièrement court, le plus court de tous. Il faisait une ligne, celui-là. Il voulait l'abolition du CIRDI. Le CIRDI, c'est la Cour arbitrale internationale qui est basée à Washington, dans laquelle tombent tous les grands litiges arbitraux, et notamment les litiges sur l'accès à l'eau. Quand un investisseur type Suez en Argentine se fait virer de l'Argentine et veut réclamer son dû, il dépose un recours devant une cour arbitrale qui est assez opaque dans son fonctionnement. Et donc, on peut lui reprocher plein de choses. Mais néanmoins, c'est dans ce genre d'instance qu'on peut faire évoluer le droit. La déclaration finale disait « abolition du CIRDI ». Bah tiens, pourquoi pas. Moi, je l'aurais juste suggéré avec mon modeste espagnol, parce que là, on était au Mexique, si on mettait « réforme du CIRDI ». Parce que paradoxalement, ce forum, ce lieu, on pourrait l'utiliser à nos fins, à nous, et inséminer de l'intérêt général dedans. Je me suis fait insulter, traiter de naïf, etc. Donc, parce que les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'on va obtenir une réforme dans notre sens, etc. Et là, je leur disais, mais attendez, c'est qui les naïfs? Ce tribunal, s'il travaille, il travaille sur la base de 2000 traités bilatéraux d'investissement. C'est-à-dire, vous prenez la planète Terre, prenez un état A et un état B... Et vous, Eh bien, j'explique. Je vais expliquer ce que c'est qu'un accord, un accord bilatéral. Un accord bilatéral. Alors, je t'explique ce qu'est un accord bilatéral. Alors, je vais tenter de l'expliciter, alors, celui-là. Donc, ah ben très bien, alors donc je vais essayer de l'expliquer. Un accord bilatéral entre deux États, c'est par exemple la France qui dit avec l'Inde, on va faire des investissements entre nos deux pays pour faire en sorte que ça se passe bien. Nous, on va accueillir vos entreprises indiennes en France, vous allez avoir des réductions de taxes. Et en général, les traités bilatéraux sont assez déséquilibrés parce qu'il y a une force en présence, type la France qui, par rapport à un autre pays, aura plus de force. Il y a 2000 traités bilatéraux d'investissement. C'est une vraie pelote de laine si on prend la planète. Et ce que les altermondialistes suggéraient, c'était d'abroger, donc du jour au lendemain, ces 2000 traités bilatéraux d'investissement. Qui sont les naïfs? Là, on peut s'interroger, je vous en prie. Et le rôle du consommateur, pour rebondir aussi sur ce que le monsieur évoquait tout à l'heure, on a tous notre rôle à jouer. Et l'un des éléments clés aussi, autant les produits vivriers, les tomates, les viandes, les légumes, et surtout les légumes et les fruits. Déjà, respecter la saisonnalité, c'est un basique. Enfin, qu'on arrête de vouloir bouffer des fraises à longue année. Enfin, peut-être arrêter... Je ne sais pas si les uns ou les autres, vous êtes allés en Andalousie, mais c'est une catastrophe absolument hallucinante. Donc déjà, ça, c'est à nous. Ça, c'est à nous de jouer. Mais sur les produits manufacturés, les poupées, les gadgets ou n'importe quel truc, un aspirateur à 19,90 €, il ne faut pas l'acheter. Ou même à 30 €. Parce que ça veut dire quoi derrière? Vous calculez la matière première, le transport, etc. Les gens qui l'ont produit, ils ont été payés comment? Donc il faut aussi s'interroger là-dessus. Et puis dernier élément, dans le cadre du Grenelle de l'environnement, c'est une des revendications justement, c'est de pouvoir obliger l'entreprise à faire un bilan et d'aller jusqu'à la chaîne de sous-traitance et que ça les amène dans la province du Xinjiang en Chine au tréfonds d'un sous-traitant pour s'assurer que le produit après qu'il va commercialiser dans un supermarché français est propre socialement et environnementalement. Ça coûte de l'argent, évidemment. Mais n'empêche que c'est ça qui va permettre au consommateur aussi de jouer son rôle de consommateur actif. Parce que pour l'instant, c'est impossible de comparer et de savoir si quand on achète ce produit-là, il a été fait dans des conditions bonnes ou mauvaises. C'est impossible. Donc ça, par exemple, c'est un des chantiers fondamentaux à mener.
On va arrêter là. Bon, ben voilà, on va peut-être s'arrêter là. Tu voulais poser une question? Tu veux poser une question?
Oui, excuse-moi de poser la question en dernière position. Mais par mon question, c'est ce que j'ai ressenti à propos de votre conférence. C'était très intéressant, mais. Moi, quand vous parlez du monde, la France, ben moi, je me sentais visé. Et je trouve ça normal que les gens que vous parlez dans le monde, la France, se sentent visés. Quand ça se fait que les personnes comme moi, qui sont handicapées, très amies, qui sont sensibles, qui sont mal, parce qu'on parle de leur pays, qu'on parle d'eux, qui sont visés. Comment ça fait que vous critiquez? Pourquoi vous parlez d'eux? Pourquoi vous parlez des gens qui ne veulent pas entendre parler d'eux, de leur pays? Pourquoi? Moi, je me sens vraiment visé, profondément, excusez-moi.
Non, mais est-ce que je suis sûr d'avoir bien saisi la question? Est-ce que tu t'étonnes que j'évoque une image de la France négative? Par rapport à tout ce que j'évoque, des sociétés où tu ne te sens pas concerné, où tu te sens blessé parce que j'évoque le comportement
Excuse-moi. Je me sens visé parce que quand on parle de la France, c'est qui? C'est nous. C'est moi, c'est toi, c'est vous, c'est, c'est tout le monde, toi. Pas pourquoi ils me sont visés.
Mais t'as pas à te sentir visé, parce que par ailleurs, là, on parle... Justement, on parle des acteurs de la mondialisation, c'est pas les individus, enfin si, on a tous notre rôle à jouer au final en tant que consommateur, mais les acteurs de la mondialisation qui créent les dommages que j'essayais d'exposer tout à l'heure, ce sont les entreprises multinationales. Et le grand sujet aujourd'hui, c'est justement un État comme la France, à l'échelle de la mondialisation, il est tout petit. C'est un cacahuète. Une entreprise, il y en a certaines qui sont plus puissantes que la France, à elle seule. Et qui sont évidemment plus puissantes que plusieurs dizaines de pays associés. C'est celle-là dont on parle. Donc il ne faut pas, toi, en tant que citoyen français, te sentir responsable de ce que j'évoque. Les véhicules de ces violations sont des entreprises qui, parfois, puisque eux, ils ne sont pas dans la recherche de l'intérêt général, ils sont dans la recherche de leur profit, c'est eux qui sont responsables. Ce sont ces espèces d'entités qui sont composées d'êtres humains, individuellement, mais qui vont au-delà du groupe d'êtres humains. C'est pour ça qu'une grande marque comme Coca-Cola ou Nike, décidément, j'ai évoqué que ces deux-là, moi, pendant toute la soirée.
On ne connaissait pas et maintenant on connaît.
Les gens qui sont derrière ces marques-là, individuellement, ce n'est pas eux qu'on va condamner. Si, après, dans le détail, les dirigeants, mais ceux qui... Mais c'est, oui, par exemple, pour changer... Mais voilà, donc ce sont ces grandes entreprises-là qui sont visées, qui sont les véhicules des violations.
Voilà. Attends. Alors, on a dit, je sais pas si...
C'est très intéressant ce qu'il vient de dire, parce que c'est vraiment l'objectif de la mondialisation, c'est que tout le monde soit vu. Si on parle de panoptique et de l'enfermement, par exemple, l'objectif principal de la mondialisation... C'est bien que tout le monde soit vu. La mondialisation est centrale et elle voit tout le monde. Donc c'est bien décrit. Enfin, je trouve ça intéressant la manière dont il décrit la chose. Parce qu'effectivement, tout le monde est visé. Tout le monde, il n'y a pas d'angle mort, quoi.
Oui, d'accord.
C'est un peu symbolisé, mais on est là-dedans, quoi. Et c'est un peu ce que j'aimerais éventuellement que tu approfondisses, si tu en as le temps, par rapport à la mondialisation, quoi, par rapport à l'aspect théorique.
Là, c'est peut-être...
Alors dans ce cas-là, je vais essayer de la faire courte parce que le sujet était éminemment complexe. Parce que là, on est la souveraineté d'un État, c'est quand même les électeurs. On est tous quand même responsables des gens. On est tous responsables des gens qui nous dirigent. On les a élus. Qu'on les aime ou qu'on les aime pas, c'est quand même nous qui les élisons. Donc c'est ceux-là qui éventuellement peuvent exercer derrière une pression, même si. Le contexte et la problématique de la mondialisation, ce n'est pas la France toute seule qui va la changer. Donc déjà, là, en amont, on a une responsabilité, voire un rôle à jouer vertueux. Et puis en aval, c'est nous qui recevons sur notre territoire et dans nos supermarchés un certain nombre de produits qui sont justement le résultat d'un certain nombre de ces violations qui ont lieu dans d'autres pays. Et nous, individuellement en France, on a aussi notre rôle à jouer. Donc au départ, en amont, au niveau du régulateur qui peut avoir un rôle... On a notre responsabilité avec notre bulletin de vote. Et en aval, en tant que consommateur, on a aussi notre responsabilité. Mais par contre, là, en tant que consommateur, on n'a pas encore les outils suffisants. Ça va prendre encore quelques années. Mais on a un rôle central dans ce problème global.
Voilà.
Par exemple, ça commence par ce genre de choses.
On va peut-être s'arrêter là. Et voilà, je propose à Fabio de nous en repousser une.